sécurité maritime et narcotrafic dans le golfe de Guinée. Quelle riposte!
À l'occasion du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, Pour Parler vous propose 4 épisodes exceptionnels dédiés aux enjeux sécuritaires sur le continent.
C'est l'Organisation maritime internationale qui, cette année, tirait le signal d'alarme face à l'escalade du nombre et de la gravité des attaques commises contre des navires dans le golfe de Guinée. L'une des zones sans doute les plus dangereuses au monde sur les mers. Zone par ailleurs qui devient une voie de transit pour la cocaïne et l'héroïne destinée au marché européen. Alors, comment réduire la menace et rétablir la sûreté dans la région ? Entretien avec Bertrand Monnet, professeur à l'EDEC et titulaire de la chaire Management des risques criminels.
Alors oui, le golfe de Guinée est assurément actuellement la zone la plus dangereuse quand on parle de piraterie maritime dans le monde. L'Asie du Sud-Est aussi est très marquée par cette forme de criminalité, mais c'est aujourd'hui le golfe de Guinée qui est le plus touché, avec un peu plus de 200 attaques qui ont été commises l'année dernière. Des attaques qui ont pour but essentiel la prise d'otages des membres d'équipage, des navires attaqués. Alors il y a deux types de cibles traditionnelles, entre guillemets, pour cette piraterie. La première, historique, ce sont les bâtiments qui travaillent pour les compagnies pétrolières dans tous les projets pétroliers qui sont déployés dans le golfe de Guinée, mais l'activité pétrolière a fortement chuté ces derniers mois, et donc les pirates se sont réorientés massivement vers leur deuxième cible classique, que sont les bâtiments de la marine marchande, qui appartiennent aux compagnies de shipping qui transitent plus au large. Alors, le golfe de Guinée est un hub logistique utilisé par les narcotrafiquants. Est-ce que c'est le principal hub au monde actuellement ? Je ne sais pas, mais ce qui est certain, oui, le golfe de Guinée et les pays limitrophes du golfe de Guinée sont utilisés de façon croissante comme plateforme logistique par les narcotrafiquants sud-américains dans deux dimensions. La première, il s'agit d'une dimension de transit, c'est-à-dire que plutôt que de faire des routes maritimes qui relient directement des pays d'Amérique du Sud, notamment la Colombie, le Venezuela, voire le Brésil, vers l'Europe, Rotterdam et Anvers étant les deux principales destinations et les ports d'entrée de la cocaïne essentiellement en Europe, plutôt que de faire ces routes maritimes qui sont aujourd'hui risqués pour les narcotrafiquants, il y a de plus en plus de saisies sur ces routes maritimes directes. Les narcotrafiquants cassent en fait la traçabilité en faisant des escales, notamment dans les ports d'Afrique de l'Ouest et notamment dans les ports du golfe de Guinée, spécifiquement au Nigeria. Donc ça, c'est la première tactique entre guillemets des narcotrafiquants, et ça je le tiens de narcotrafiquants mexicains sur lesquels j'ai réalisé un documentaire récemment et qui me le disent, oui, effectivement, leur tactique c'est soit de transborder des cargaisons dans ces ports ouest africains du golfe de Guinée pour après réacheminer la drogue toujours par voie maritime vers l'Europe. L'autre tactique, c'est de décharger les drogues qu'ils transportent dans ces ports ouest-africains et après de leur faire suivre des voies terrestres, notamment par la bande sahélienne. Deuxième dimension de cette implication finalement du golfe de Guinée dans le narcotrafic, tout simplement, c'est les pays limitrophes du golfe de Guinée sont des marchés de consommation de drogue de plus en plus, et spécifiquement le Nigeria, deuxième économie d'Afrique, avec une vraie classe moyenne et une classe dirigeante également très très développée, avec un pouvoir d'achat très fort. Et donc le Nigeria spécifiquement, mais pas seulement, devient aussi un pays consommateur de cocaïne, donc une destination d'export de cocaïne et également sans doute d'autres drogues comme le fentanyl qui sont fabriquées par les Mexicains et par d'autres mafias sud-américaines. Donc c'est aussi en cela que le golfe de Guinée est concerné par le narcotrafic. Les pirates qui agissent dans le golfe de Guinée sont dans leur immense majorité des Nigérians. Et ces Nigérians étant des gens qui sont originaires du sud du Nigeria, du delta du Niger. Il faut considérer 3 catégories de pirates. Les premiers groupes de ces pirates sont des gens qui pratiquent la piraterie d'opportunité. Alors généralement, ils attaquent des bateaux locaux ou des bateaux qui travaillent pour les compagnies pétrolières, mais à quelques milles nautiques des côtes, voire dans le delta lui-même, dans les bras de fleuve du Niger, dans la mangrove. Ce sont des attaques qui sont très très difficiles à quantifier. Elles peuvent être très violentes. Alors ces pirates-là, généralement, sont équipés d'un speedboat, donc d'un bateau, avec un moteur de 100 ou 200 chevaux. Mais c'est pas un équipement très très impressionnant. Et ils ont un armement qui leur parfois, ils ont un fusil d'assaut, mais souvent, ce sont des shotguns, c'est-à-dire des armes de chasse locales et des machettes. Le deuxième type de pirates est constitué de gens qui travaillent alors beaucoup plus loin en mer, jusqu'à la zone des 40-50 nautiques. Ce sont des gens qui, généralement, sont constitués en groupe d'une cinquantaine à une centaine de pirates, qui vivent alors pas de façon permanente dans des camps, dans la mangrove, lorsqu'ils prévoient des attaques, mais qui, les attaques étant commises, retournent dans les villes et dans les villages du delta du Niger. Ces groupes-là sont essentiellement constitués d'ex-chef du MEND, qui a été l'une des guérillas qui a sévi dans le delta du Niger pendant plusieurs années. Eux attaquent tout type de cibles, ce peut être des bateaux travaillant pour l'industrie pétrolière, comme des navires qui transitent par la route maritime qui passe dans le golfe de Guinée, mais ils ont quand même beaucoup de mal à aller au-delà des 50 000 nautiques, parce qu'ils n'ont pas forcément la logistique nécessaire pour ravitailler leur speedboat. Leurs cibles essentielles, ce sont les membres d'équipage spécifiquement étrangers qu'ils cherchent à capturer à bord des bateaux pour les détenir ensuite dans la mangrove et négocier des rançons. Alors, le montant des rançons aujourd'hui pour un expat, hein, c'est de l'ordre de 200 000 à 250 000 dollars. Ça peut aller jusqu'à 400 000 dollars pour certaines nationalités. Un Français, c'est 250 000 en ce moment. Et un Américain, c'est un peu plus, c'est 400 000. Donc ça, ils cherchent vraiment toujours à capturer ce type d'otages. En fait, c'est du kidnapping offshore plus que de la piraterie maritime que pratiquent ces groupes-là. Il en existe beaucoup, plus d'une vingtaine sont actuellement actifs. Ils sont très difficiles à repérer parce qu'encore une fois qu'ils ont agi, ils s'évaporent dans la mangrove et ils bénéficient de collusions locales au sein des communautés locales, c'est-à-dire au sein de la population locale, mais aussi malheureusement au sein de certains acteurs publics locaux via la corruption. Troisième catégorie de pirates, alors là il n'existe que quelques groupes qui sont capables de faire ça. À ma connaissance, il y en a 5. Ce sont des groupes de pirates qui, eux, sont capables d'attaquer en mer, mais alors très très loin des côtes, jusqu'à 150 000 nautiques. Contrairement aux pirates somaliens, à la grande époque, entre guillemets, de la piraterie somalienne, eux n'utilisent pas de bateaux mer, à ma connaissance, de mothership, c'est-à-dire des bateaux à partir desquels ils pourraient faire partir leur speedboat. Ils attaquent directement depuis les côtes, en speedboat, mais avec des relais, qui généralement sont des bateaux de pêcheurs. Alors on trouve, dans le golfe de Guinée, des pêcheurs qui vont très très loin en mer. Donc ces pêcheurs, en fait, sont payés pour avoir du fuel à bord de certains de leurs bateaux, fuel qui permet à ces pirates de refaire le plein, tout simplement, de leur moteur, lorsqu'ils attaquent jusqu'à, encore une fois, 100-150 000 nautiques des côtes. Les cibles de ces pirates, elles sont duales. Alors, ce peut être des bateaux, encore une fois, de compagnies maritimes, et des pétroliers. Alors là, il s'agit pour ces pirates, en fait, de prendre le contrôle de pétroliers qui viennent livrer au Nigeria des produits raffinés, et spécifiquement du diesel. Auparavant, ils affrètent un autre pétrolier, vide, au Togo ou au Bénin voisin. Une fois qu'ils ont pris le contrôle du pétrolier à bord duquel se trouve le diesel, le second pétrolier qu'ils ont affrété se déroute et vient se placer à couple du bateau qu'ils ont arraisonné, et les pirates pompent autant qu'ils le peuvent la cargaison du pétrolier vers ce second bateau. Puis cette cargaison, ce diesel, est revendue après sur le marché parallèle en Afrique, spécifiquement au Nigeria. Ça, c'est un business qui vraiment rapporte des millions de dollars à chaque attaque, donc c'est le plus rentable. Ça demande des collusions, ça demande beaucoup d'investissement parce qu'il faut affréter ce second pétrolier, il faut charter ce pétrolier. Et il faut le faire évidemment avec des entreprises écrans, parce que c'est difficile de charter un pétrolier sans ça. Et ça demande encore une fois des moyens financiers et également une certaine collusion parmi certains échelons des forces de sécurité locales. Alors les solutions face à la piraterie maritime, elles existent, à mon avis, ne pas être excessivement pessimiste. Elles sont de plusieurs ordres. La première, c'est la coercition, évidemment. Et là, il s'agit de renforcer, à mon sens encore, l'action navale, l'action militaire, qui est déjà déployée dans le golfe de Guinée. Alors bien entendu, il y a une action navale étrangère, en coordination avec les États de la région, et spécifiquement française, avec la mission Corum, mais pas seulement, qui est très très efficace. Mais enfin bon, les marines nationales étrangères et même la marine nationale française ne peuvent pas régler le problème à elle seule de la piraterie dans le golfe de Guinée. Donc évidemment, les pays de la région se sont mobilisés. Il y a eu plusieurs sommets, plusieurs coopérations sont actuellement en cours. Et force est de constater que pour l'heure, l'efficacité n'est pas au rendez-vous. Alors pourquoi ? Parce que, à mon sens, premièrement, ça prend du temps de coordonner tout cela. Puis, deuxièmement, il faut monter en puissance pour ces marines locales. Donc l'axe de progression, à mon sens, pour cela, et ça c'est spécifiquement, à mon avis, une action qui doit être menée non pas seulement de façon bilatérale, mais sur un plan européen, et via une implication plus grande encore de l'Union européenne. Il s'agit d'équiper, c'est une chose, mais aussi de former ces marines nationales à l'action anti-piraterie, qui est quand même assez spécifique. C'est des savoir-faire techniques, tactiques de marine, notamment de commando marine, dont ne disposent pas forcément toutes ces marines-là. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la protection. C'est-à-dire qu'à bord des navires et des plateformes, des barges, des bateaux de soutien, etc., peuvent se trouver des gardes armés. Attention, quand on est dans les eaux territoriales des États limitrophes, je pense notamment au Nigeria, ces gardes armés ne peuvent être que des militaires nigériens, avec lesquels les compagnies peuvent, de façon parfaitement légale, passer des conventions afin de bénéficier à bord de leur bateau de la protection de la force militaire nigériane ou d'autres pays. Dans les eaux internationales, évidemment, les compagnies maritimes comme les compagnies pétrolières peuvent tout à fait faire protéger leurs bateaux par des gardes armés privés. Là encore, le nombre d'attaques reste très très important. Pourquoi ? Parce que les pirates sont très très motivés et finalement, pour en parler avec eux, ils n'ont pas vraiment peur de mourir. Malheureusement, ils déploient une violence très forte. Ils ont une motivation extrême à monter à bord et à commettre des actes de piraterie. Donc je ne dis pas que c'est pas efficace, pas du tout, mais c'est sans doute nécessaire, mais pas suffisant. La vraie solution, à mon avis, à long terme, elle n'est pas militaire, mais elle est économique. Il s'agit, alors encore une fois, sans tomber dans un discours lénifiant et idéaliste, c'est pas du tout ça, mais il s'agit quand même de régler le fond du problème de la piraterie maritime, qui tient à quoi ? Et je n'excuse pas les pirates, j'explique leur motivation. On peut le comprendre quand on va dans leur village, finalement, quand on va dans la mangrove. Le delta du Niger, c'est 18 millions de personnes. L'espérance de vie y est de 47 ans. 60% de la population vit avec moins de $2 par jour. Un enfant sur 5 meurt avant l'âge de 2 ans. Bon, enfin, on peut continuer longtemps comme ça. C'est une région du Nigeria qui est très faiblement développée, alors même que c'est dans cette région que sont extraites les ressources en hydrocarbures qui assurent plus de 60% du budget de l'État nigérian. Donc, il y a un véritable déséquilibre qui se manifeste par un réel sous-développement de cette région et qui pousse certaines franges marginales de la population locale à développer ces actions violentes de prédation qui, en parallèle, sont complétées par le trafic de pétrole, etc. Donc, la vraie solution, c'est d'élever le niveau de développement économique local afin que la situation socio-économique des populations du delta du Niger ne puisse plus pousser certains à pratiquer cette forme de criminalité. Là aussi, ça prend du temps, ça demande une implication massive des acteurs locaux et spécifiquement nigérians. Alors, le gouvernement Buhari a vraiment lancé des programmes significatifs en la matière, mais là aussi, encore une fois, ça prend du temps, avec un obstacle qui est celui de la corruption de certaines franges de l'administration nigériane, la corruption étant énergiquement combattue par le gouvernement Buhari, mais là aussi, pour qu'elle soit efficace, cette action, il lui faut du temps, tout simplement. Mais elle est lancée, et je pense qu'elle commence à porter ses fruits. Donc on peut être optimiste quant aux solutions face à la piraterie maritime, mais il faut être patient.
Du militaire, mais aussi de l'économique, c'est clair. Merci Bertrand Monnet, professeur à l'EDEC et titulaire de la chaire Management des risques criminels.
Rendez-vous les 6 et 7 décembre pour la 7e édition du Forum de Dakar. En attendant, suivez toutes les actualités du Forum sur nos réseaux. Pour parler, un podcast écrit et réalisé par l'agence 35 degrés Nord.